Chapitre 8. Il n'était que 8 heures du matin quand, une semaine plus tard, Colette et Jacques arrivèrent à Nice. C'était un peu tôt pour se rendre rue Giolitti où habitait Madame Salmon. Ils laissèrent leurs bagages à la consigne, puis ils descendirent à pied l'avenue de la gare jusqu'à la place Masséna où ils s'assirent à la terrasse d'un glacier sous les arcades du casino. Le temps, à cette heure matinale, ne pouvait pas être plus beau. La statue de la place de la République était d'une blancheur éblouissante au soleil. Les portes des magasins étaient ouvertes. Il y avait encore peu de monde dans les rues. 10 minutes s'écoulèrent avant qu'un garçon ne s'approchât du couple, 10 minutes durant lesquelles celui-ci éprouva le sentiment auquel se mêle celui de ne pas déranger un ordre destiné à une multitude encore absente, de jouir d'un plaisir avant tout le monde. Jacques était maintenant de bonne humeur. Cela n'avait pas été sans mal que Colette avait entraîné Jacques dans ce voyage. Alors que depuis des semaines, il avait paru souffrir profondément de ne pouvoir, par la faute de Colette, se constituer prisonnier, au moment de partir, il avait soudain eu peur. La question des passeports l'avait inquiété. « Ils sont supprimés, » lui avait dit Colette. « Mais à Nice, on finira bien par savoir qui je suis. » Enfin, il avait cédé et à présent, dans son pays, sans que personne ne s'occupât de lui, il éprouvait un sentiment de détente. Vers 10 heures, ils se dirigèrent vers la rue Giolitti. « Attends-moi, » dit Colette une fois devant la maison. « Il vaut mieux que j'arrive seule. Je viendrai te chercher tout à l'heure. » Elle entra dans la maison. Son cœur battait. Elle craignait, elle ne savait exactement quoi. Bien qu'elle n'eût pas donné à sa mère le nom de famille de Jacques, il était possible que celle-ci, dans la semaine qui venait de s'écouler, l'eût appris. Madame Salmon avait peut-être écrit à Paris. C'était une femme qui était en relation avec des fonctionnaires, des gens en place. Cela, Colette l'avait tout de suite senti. Mais ses appréhensions étaient vaines. La première parole de Madame Salmon fut pour s'étonner que Jacques ne l'accompagnât pas. « Il m'attend devant la maison. Veux-tu que j'aille le chercher ?»« Ce n'est pas la peine. Je vais lui faire signe par la fenêtre. » Madame de Lamotte, une amie de Madame Salmon, sous-louait des chambres. C'était une femme d'aspect assez quelconque qui avait un respect un peu exagéré de l'indépendance. Quand Colette et Jacques s'installèrent chez elle, il ne fut question que d'indépendance. Indépendance de l'entrée, indépendance des compteurs. Une vie qu'on peut qualifier d'agréable commença pour le jeune ménage. Madame Salmon recevait parfois quelques amis. C'étaient tous, pour la plupart, des célibataires ou des couples sans enfants, des gens entre l'âge mûr et la vieillesse, se chauffant au soleil, marchant à petits pas. De leur famille dispersée, il y avait toujours un membre dont ils parlaient avec admiration, haine et, plus souvent, rancœur. C'était tout un monde de petits rentiers pleins de modestie, vivant dans un paysage qu'ils croyaient le plus beau du monde, attendant doucement la fin. Madame Salmon invitait alors Colette et Jacques. Elle les avait dépeints comme formant un couple idyllique, mettant l'amour au-dessus de tout et que le monde avait meurtri. Ils n'avaient pas encore pu se marier, mais dès qu'ils le pourraient, c'est-à-dire dès que certaines questions d'intérêt, dans le détail desquelles il était difficile d'entrer, seraient réglées, il le ferait. On imagine aisément l'accueil que fit ce milieu sentimental où les plus vieux ménages racontaient encore comment ils s'étaient connus, à pareille aventure. Il y avait un certain monsieur Salmon qui n'était pas précisément pauvre et qui, comme tout le monde, serait bien obligé un jour devant cette force qu'est un véritable amour. On savait que Jacques appartenait à une excellente famille qui, elle non plus, n'était pas précisément pauvre. On s'évertuait, avec d'autant plus de zèle, qu'on voulait montrer qu'on avait passé par là, à adoucir cette période difficile qui précède la reconnaissance d'un amour dont seuls les acteurs ressentent à la profondeur. Chacun avait des paroles d'encouragement. Chacun comprenait. Mais si tous ces gens avaient une influence bienfaisante sur Colette, ils ne tardèrent pas à déprimer Jacques. ils avaient renoncé à être autre chose que ceux qu'ils étaient présentement. Ils étaient satisfaits de leur état. Ils n'avaient pas d'ambition. Était-ce en se laissant vivre dans un milieu aussi lénifiant qu'il deviendrait un homme? Avait-il le droit, alors qu'il avait à expier un crime avant tout, de s'abandonner à cette douceur? Il n'avait pas 30 ans. Il voulait vivre. Il voulait reprendre une place dans le monde. Et c'était à ce moment qu'il accepterait qu'on l'entourât de prévenance. Il y avait à peine un mois qu'il était arrivé à Nice, qu'il parlait de nouveau de rentrer à Paris, de se constituer prisonnier. Mais pas plus qu'en Suisse, il n'en avait le courage. Ne voulant pas l'admettre, il faisait tomber la responsabilité de sa faiblesse sur Colette, sur Madame Salmon, sur tous les gens qui gravitaient autour de la mère et de la fille. Puis il se rendait compte de son injustice. Il était alors en proie à de violentes crises de désespoir. Il avait la détestation de ses fautes. C'était ce que redoutait le plus Colette. Il la menaçait alors de se suicider. Comme il disait, cela simplifierait tout. On n'entendrait plus parler de lui. D'ailleurs, après ce qu'il avait fait, il se demandait comment il pouvait être encore en vie. Colette parvenait alors parfois à l'entraîner chez sa mère. Mais ses visites avaient un effet contraire à celui qu'elle escomptait. Le spectacle de cette vie bourgeoise, qu'il eût tant souhaité être la sienne, l'assombrissait encore. Elle lui faisait paraître sa situation plus effroyable encore. Parfois, il s'écriait « Je ne peux plus !» La vision du scandale, qui, infailliblement, devait éclater, était de plus en plus nette devant ses yeux. Mais elle lui était intolérable quand on lui témoignait de l'affection, comme c'était le cas lorsqu'il rendait visite à Madame Salmon. Il imaginait le scandale se produisant un jour où justement il y avait du monde, car au fond, il souffrait moins dans sa conscience que de s'être déclassé, isolé, fermé toute carrière, qui lui eût valu les satisfactions pour lesquelles sa famille l'avait élevé. La Suisse, parce qu'il y avait été solitaire et où pourtant il avait tant souffert, lui semblait avoir été un lieu de délices. Il n'osait songer au lendemain. Le moindre projet l'inquiétait. Il avait sans cesse l'impression qu'on allait l'arrêter. Il se représentait la scène. Les gendarmes entraient chez Madame Salmon au moment où elle donnait une réception. On l'arrêtait au milieu de la stupéfaction générale. Il y avait même un brave homme qui s'avançait vers les gendarmes et leur disait que ce n'était pas possible, qu'il y avait certainement une erreur. On le questionnait, on le suppliait de dire la vérité, et il était obligé de reconnaître devant tout le monde, non pas qu'il avait tué un homme, ce qui n'eût rien été, mais qu'il n'avait pas voulu subir de châtiment, qu'il s'était enfui, caché pendant 4 ans. D'autres fois, il songeait à ce qu'eût été sa vie s'il n'avait pas eu cet instant d'égarement, si la maladie ne l'avait pas tenu à l'écart dès l'âge de 15 ans. Il était alors pris d'une rage telle qu'il jetait à terre tout ce qui se trouvait près de lui, et cela malgré l'inventaire qui avait donné lieu à tant d'histoires avec Madame de Lamotte. Puis, tout à coup, sans même prendre de chapeau, il sortait, marchant droit devant lui, jusqu'à ce qu'il fût épuisé. « Comment ai-je pu être aussi bête ? Comment ai-je pu être aussi bête ?» Il lui semblait qu'il perdait la raison, que la vie qui l'entourait n'était plus celle qu'il avait perdue, que les hommes, le ciel, les voitures, les arbres, formait un univers d'où il était sorti il y avait des années et où il n'avait plus sa place. Quand il n'en pouvait plus, il s'asseyait n'importe où, sur un banc, sur une balustrade, et pendant parfois plus d'une heure entière, demeurait immobile, la tête dans ses mains. Quand, enfin, il se décidait à rentrer, le souvenir de Colette ne se présentait même pas à son esprit. Il y avait longtemps qu'elle n'était plus pour lui qu'un cœur charitable pour un homme menacé de mort. Un soir, comme il devait se rendre avec Colette rue Giolitti, Jacques entra sans raison apparente dans une grande colère. Il y avait un grand dîner chez Madame Salmon, un dîner comme elle aimait à les organiser, c'est-à-dire avec beaucoup d'apparat. Un ancien colonial qui ne parlait que de sa jeunesse passée dans le Calvados, une vieille dame anglaise qui ne disait jamais mot sur l'Angleterre et un ménage très français, toujours bras-dessus, bras-dessous, avait été invité. Les jours de dîner, Jacques et Colette devaient se plier comme tout le monde à cet usage, étaient précédés d'un commun accord par un laps de temps qui allait parfois jusqu'à 4 jours, où on évitait de se rencontrer, de manière que le plaisir de se revoir s'ajoutât à celui de faire un bon dîner. Il y avait donc ce soir-là, lorsque Jacques s'était emporté, 3 jours exactement qu'il n'avait vu Madame Salmon. « Cette existence ne peut plus durer. Je te dis qu'elle ne peut plus durer !» criait-il en allant et venant dans sa chambre. « Mets-toi à ma place, Colette. Chaque matin, en m'éveillant, je me demande si le soir je coucherai dans mon lit. Les mois passent. Il n'y a pas de raison que cela cesse. Il faut que tu le saches, Colette. C'est à cause de toi que je supporte tout cela. Si tu n'étais pas là, il y a longtemps que je serais rentrée à Paris, que je saurais ce que l'avenir me réserve. Mettons 10 ans de prison. Mais au moins, je saurai qu'à 40 ans, si Dieu me laisse la vie, je pourrai redevenir un homme comme tous les hommes. » Colette le regarda sans laisser paraître la moindre émotion. Quelques secondes plus tard seulement, elle pâlit. C'était la première fois qu'il la rendait responsable de ses malheurs. « Tu crois que si je n'étais pas là ?» Elle dut s'arrêter. Jacques gardait le silence. Il venait de lui apparaître qu'il était injuste, ingrat. « Je ne sais plus ce que je dis, » murmura-t-il. Il porta, pour s'excuser, une main à son front, comme si sa tête était si pleine de pensées qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Puis il ajouta, « Si tu n'étais pas là, ce serait la même chose, car je n'ai aucun courage. » À peine eut-il dit ces mots qu'il se précipita dans la chambre voisine, tira la porte derrière lui. Colette l'y rejoignit. Il revint alors dans la pièce qu'il venait de quitter. « Jacques, qu'est-ce que tu as ? » « Laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi. Si tu fais un pas, j'ouvre la fenêtre. » Colette savait ce que sous-entendait cette menace. Jacques avait répété 100 fois que s'il se donnait un jour la mort, ce ne serait pas avec un revolver. Il ne voulait plus jamais tenir dans ses mains un revolver. Il se jetterait dans le vide, sous un train, tout, sauf toucher un revolver. Elle recula. Il lui faisait peur à présent, avec ses cheveux défaits et surtout avec cet air qui venait de paraître sur son visage, d'avoir peur d'elle. « Voyons, Jacques, ne te mets pas dans cet état. On nous attend pour dîner. »« Dîner, comme si je pensais à dîner !» cria-t-il en s'éloignant enfin de la fenêtre et en se laissant tomber dans un fauteuil. « Tu sais très bien que ma mère... » Elle ne continua pas. C'eût été inutile. Il était visible que Jacques avait attendu le moment d'aller rue Giolitti pour se mettre dans cet état. Il cherchait à se rendre aux dieux. Ce fut à ce moment que les conséquences de cette volonté lui apparurent. Déjà, les réponses évasives de Jacques, dès qu'on parlait de son futur mariage ou de la situation qu'il devait briguer, avaient laissé soupçonner un désaccord sur ces points entre Colette et lui. Or, tout l'intérêt, et la jeune femme l'avait depuis longtemps remarqué, qu'on portait au jeune couple provenait de l'idée agréable qu'on se faisait de leur entente. Si on s'apercevait qu'on s'était trompé, cet intérêt se refroidirait. Que deviendraient-ils alors tous les deux sans argent, sans protection, sans situation, obligés qu'ils étaient à demeurer cachés? Colette jeta un regard suppliant sur Jacques. Il s'était levé. Il se tenait de nouveau près de la fenêtre. D'un doigt, il montrait la rue. « Jacques, habille-toi et viens !»« Non, je n'irai pas. J'en ai assez de jouer la comédie. Assez, assez !» Cette vie, je le répète, ne peut plus durer. C'est bien, après tout, tu as peut-être raison. Restons ici. » En prononçant ces mots, Colette se dirigea vers la porte. Ce qu'elle demandait à Jacques, c'était de l'aimer. Le reste, après tout, n'avait aucune importance. Elle venait à peine de faire quelques pas qu'elle se sentit saisie par les épaules. Jacques l'embrassa 10 fois de suite, comme on embrasse une chose qu'on tient dans le creux de la main. Des larmes coulaient de ses yeux. Il tremblait des pieds à la tête, comme s'il venait de sortir d'une eau glacée. « Pardonne-moi, pardonne-moi » balbutia-t-il. « Tu ne peux pas t'imaginer comme je suis malheureux. C'est terrible de vivre comme je fais, alors que j'aurais pu être si heureux, semblable à tout le monde, continuer mes études, réussir dans la carrière que j'aurais choisie. » Colette fut si touchée par ce revirement qu'elle ne remarqua même pas que Jacques ne parlait que de lui. « Mais ta vie n'est pas finie, tu seras encore heureux, mon chéri. »«
Tu le crois vraiment ?»«
J'en suis certaine. » Ils s'assirent sur un divan et restèrent un long moment, immobiles et muets. La nuit tombait lentement. On entendait à l'étage au-dessus Madame de Lamotte passer rapidement d'une pièce à l'autre. Colette ne pensait à rien. Elle avait oublié le dîner de sa mère. Puis Jacques se mit à parler avec calme, tout en tenant Colette serrée contre lui. Il parla pendant plus d'une heure, sans s'interrompre une fois.